À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.
Bonjour Laurent, bonjour Serge. Mais on va continuer notre quasi-feuilleton maintenant sur l'affaire voilà. Sacco e Vanzetti au travers d'une interview de Giovanni Vanzetti, le neveu de Bartolomeo Vanzetti, qui a été réalisée en Italie sur une proposition de Serge et avec le concours
de la radio RBE.
Voilà, radio vaudoise piémontaise. Et avec notamment l'interview menée sur place par Marco, le journaliste de cette radio. Serge, on rappelle un petit peu.
On va faire un petit rappel, oui.
De ce qu'on avait entendu de la fois précédente.
Donc, Bartolomeo Vanzetti est un émigré italien qui est venu aux États-Unis en 1908. À cette époque, les émigrés italiens n'étaient pas bien vus. De plus, il était anarchiste. Il a été accusé avec Nicolas Sacco d'un meurtre qu'ils n'ont pas commis. Donc on a terminé l'émission précédente par une phrase de M. Giovanni Vanzetti, qui dit qu'ils ont été assez déçus de leur arrivée aux États-Unis et qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils espéraient. Donc Bartolomeo Vanzetti a quitté l'Italie à 100 lieues des idées anarchistes. Il a opté pour ses principes après une... Pas ses principes, mais pour cette idéologie après une fuite au Mexique pour ne pas s'engager dans la guerre de 15-18. C'est comme ça qu'on dit, je crois, pour l'Italie. Hein, 15-18. Et peut-être risquer de se trouver à combattre en Italie. Donc là, on se situe à ce moment-là, 9 ans après son arrivée. Et pour lui, ça a été quasiment 9 ans de galère. Sa condition de manœuvre le maintient, on peut dire, en état de survie et il commence à s'interroger sur sa condition. Rappelons que M. Giovanni Vanzetti, donc son neveu que l'on entend, nous a dit que son oncle adolescent avait des dispositions pour étudier. Alors, on lui a posé la question, qu'est-ce qui lui a fait épouser les thèses anarchistes? Est-ce que c'est un fait particulier?
Io, che sappia io, una cosa specifica non credo. Penso che sia stata la situazione che c'era all'epoca negli Stati Uniti. Cioè, la gente doveva lavorare, e oltretutto gli italiani in modo particolare erano trattati più come animali che come persone. Infatti poi si rivedrà anche durante il processo che il giudice Thayer nelle sue varie forme insomma li tratta anche male, perché le dice: ma voi siete italiani, come dire, siete pezzi da piedi, gente di quarta categoria, di ultima. E invece lui, Bartolomeo, si è dato molto alla lettura e già in quegli anni aveva letto di tutto, perché aveva letto dal Libro Cuore a tutti i libri che parlavano di chiamiamo comunismo attualmente, ma che erano le varie politiche di sinistra, e si era fatto una cultura. Anche poi, specialmente in carcere, ha studiato l'inglese. Difatti, quando l'hanno messo in carcere nel 20, parlava qualche parola di inglese. Quando l'hanno fatto l'ultima udienza, prima di farli morire su sedia elettrica, lui ha fatto l'autodifesa in inglese, dicendo al giudice tutto quello che si sa che è stato detto.
Continuiamo a parlare di politica. Sembra esistere negli Stati Uniti una forte presenza italiana nei movimenti sindacali poco strutturati, diciamo, chiamiamoli sindacalismo anarchico, se vogliamo fare un'unione di questa interpretazione. È vero, cioè questa presenza era significativa, e da che cosa potrebbe derivare? C'era un legame forse anche con la cultura politica della madrepatria? C'era un legame tra di loro? Un'associazione allora, naturale, diciamo.
Sì. Allora, quello che so io era che all'epoca anche in Italia di anarchici ce n'erano parecchi. E questi sono stati, essendo perseguitati dalla polizia, maltrattati, sfruttati, si ribellavano. L'unico modo, quello di ribellarsi, era fare comunità e organizzarsi e fare poi delle manifestazioni. Perché poi non dimentichiamoci una cosa, che nel 1900, finito la guerra, nel 1917 fino al 25-28, negli Stati Uniti, di caso sacche e vanzetti ce ne sono stati parecchi, non uno, parecchi. Solo che questo, il caso Sacco-Vanzetti, è stato l'unico che l'autorità...
Donc on parlait du pourquoi de l'anarchisme de Vanzetti, et Giovanni explique que selon lui tout ça était lié à la situation aux USA, et que c'est cette situation qui l'ont amené à embrasser cette cause, parce que le travail était très très dur. Et il était encore davantage difficile pour les Italiens, qui étaient traités plus comme des animaux, dit-il, que comme des personnes. Et il dit même que ça s'est ressenti au moment du procès, parce que le juge faisait souvent référence, mais vous êtes italien, comme si c'était une catégorie...
C'était inscrit sur le casier judiciaire.
Voilà, inscrit, c'est une sorte de catégorie de bas étage, une quatrième catégorie, comme il dit. Et, alors après... Il a certes beaucoup lu, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup, il a beaucoup lu sur ce qu'on appellera maintenant le communisme, il a beaucoup lu sur différentes politiques de gauche. Et quand il était en prison, il a appris l'anglais. Oui. Alors il le parlait un petit peu en entrant en prison, mais il n'en parlait que quelques mots, mais il a appris l'anglais sans doute dans le but de pouvoir l'utiliser pour sa défense vis-à-vis, au moment du procès. Marco demande si, pour revenir à l'anarchisme de Vanzetti, ici il y avait, parce qu'on selon lui, dans les mouvements qu'il appelle syndicalistes anarchistes,
oui, il y a le mot syndicalisme dedans,
voilà,
qui
intervient. Oui, parce que c'est le mot que souhaitait un petit peu utiliser Giovanni. S'il y avait un lien avec le fait qu'il y avait beaucoup d'anarchistes en Italie, est-ce qu'il y avait un lien en fait avec la mère patrie à ce niveau? Giovanni a confirmé qu'il y avait beaucoup de mouvements anarchistes en Italie à l'époque, qui étaient aussi poursuivis. Hein. Mais le lien proprement dit, bon, c'est peut-être un lien d'idéologie. Il y a eu... Par contre, ce qu'il expliquait aussi, c'est que des cas comme Sacco et Vanzetti, en fait, il y en avait beaucoup aux États-Unis à la même époque, des gens qui se rebellaient, des gens qui étaient maltraités. Mais la grosse erreur qu'ont fait les États-Unis, selon lui, c'est qu'ils ont un peu sous-évalué la réaction vis-à-vis de ce procès, vis-à-vis de l'accusation au départ, et que tout ce qui d'habitude restait un petit peu en sourdine, là s'est traduit par des énormes mouvements, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, qui a eu quelques conséquences après sur le monde du travail, notamment des horaires aux États-Unis.
Alors, on va toujours parler de Sacco et Vanzetti en chanson.
Alors, on va cette fois écouter une chanson qui s'appelle Sacco et Vanzetti, tout simplement.
Tout simplement.
qui est tiré du répertoire des chants diffusés parmi les émigrés italiens aux États-Unis et qui avait été composé par des auteurs italiens eux-mêmes, qui s'appelaient Vampo e Pensiero. Et c'est dans cette chanson, donc on reparle de entre guillemets, l'affaire. Elle commence comme ça. Sacco et Vanzetti ont été arrêtés à Boston par surprise un soir. On les a accusés d'avoir tué et ils ont été toujours en attente de leur verdict. Mais tout le monde, enfin le monde s'insurgeait de façon importante contre un tel acte et plus d'un débat se produisit, enfin il y a eu plus d'un débat pour faire la lumière sur ce méfait, mais tout cela en vain parce que la loi les condamna. Et voilà, enfin tout le long on parle de cette affaire dans cette chanson écrite donc par ces deux immigrés italiens qui étaient Vampo et Pensiero. Et puis on reprend d'ailleurs des paroles de Sacco e Vanzetti, Sacco qui disait: nous sommes innocents et qui nous condamne le sait très bien. On nous a considérés comme des délinquants, etc., etc. Et Vanzetti, l'autre martyr, parlant d'une voix calme et sans peur, lui aussi, donc on parle de sa façon de s'exprimer, et il a dit au juge: condamnez-nous, mais vous aurez un remords atroce un jour. Nos idées sont de vraies idées, elles sont des avancées, mais c'est pas pour cela que l'on doit mourir. Voilà ce que dit la chanson.
Sacco disse: noi siamo innocenti e chi ci condannò lo sa pur bene, ci han calcolati come delinquenti, stringendoci più forte le catene. Se il nostro fine in questo caso nuoce, di classe l'odio che fa condannò. Per poterci liberare, ed ho finito, disse Vanzetti, parlerà, io fin non mi so esprimere, egli continuerà. Vanzetti, l'altro martire, parlò e calma e senza aver paura, discusse quel delitto più nefando, e pur l'orror della condanna oscura, ai giudici egli disse: condannate, rimorso atroce avrete voi un dì. Le nostre idee ver sono avanzate, ma non per questo noi dobbiamo morire. Il mondo guarda e attende e
Dans cette chanson qui est tirée de l'album Emigranti, c'est des chants de l'immigration italienne de Gualtiero Bertelli, qui a été réalisé par la Compagnia delle Acque, avec notamment Cecilia Bertelli et Gualtiero Bertelli. Dans cette chanson, on parlait de la prise de parole de Sacco et de Vanzetti. Pour faire la transition, Sacco dit « J'ai fini », dit-il. Maintenant, c'est Vanzetti qui parlera parce que je ne sais pas m'exprimer. Lui continuera. Et on va le ressentir après dans l'interview.
Oui, parce que c'est Vanzetti qui a mené tout le contact.
Cette facilité de parole qu'avait Vanzetti.
Donc on va évoquer maintenant la partie judiciaire de l'affaire. Donc on va faire aussi très synthétique. Le 15 avril 1920, donc un convoyeur de fonds est volé et assassiné à cette occasion. Le 5 mai, donc trois semaines après, Sacco et Vanzetti sont arrêtés et emprisonnés. Et dès le 6 mai, il y a un comité de défense qui est créé. Le 11 septembre 1920, ils sont inculpés et décident de plaider non coupables. Et le procès a lieu du 31 mai au 14 juillet 1921. Et en septembre 1921... ont lieu les premiers meetings en Europe. Donc c'est dire si la mobilisation a été rapide. Alors leur exécution a eu lieu le 23 août 1927, 6 ans après le procès. Donc ils ne sont pas pendant ces 6 ans dans ce qu'on appelle le couloir de la mort, puisque ces 6 ans sont consacrés aux recours qui ont été nombreux, recours en particulier pour revoir le procès, en particulier certains témoignages qui n'ont pas été pris en compte. On écoute Monsieur Vanzetti.
La sua forza è stata quella che ha sempre combattuto, si è sempre informato, ha sempre letto, ha iniziato a studiare l'inglese per conto suo autodidatta per esprimere meglio con chi parlava. E poi ha tenuto i rapporti con tutta, con la famiglia, con gli amici, con tutta i parenti e anche con gli avvocati che erano quelli che dovevano difenderli. Era lui che teneva i contatti, perché Sacco questa cosa la lasciava più a Bartomeo, perché lo riteneva più idoneo. Non so, più preparato, ecco. E anche perché poi Sacco, avendo una famiglia, una moglie con due figli, la cosa l'ha vissuta in modo diverso, tant'è vero che poi, poverino, è stato un periodo che l'avevano ricoverato in ospedale perché, diciamo che era andato, non dico che era diventato pazzo, tutt'altro, perché non era vero, però era andato un po' fuori.
Beh, insomma, è comprensibile.
Ecco, perché essendo innocente, con moglie e figli, e trovarsi lì condannato a morte per fatti non commessi, anche perché oltretutto Sacco, il giorno della rapina, che hanno ammazzato i portavalori e la guardia del corpo, per cui sono stati condannati a morte, lui era al consolato italiano. Però non è stato ammesso neanche il console italiano al processo a testimoniare, perché le hanno detto: ma voi siete italiani e negate anche l'evidenza fra di voi pur di salvarvi. Invece Sacco era là, e quando hanno chiesto poi in secondo tempo al console come faceva a essere sicuro, le ha detto: perché è la prima volta che mi era capitato un signore che è arrivato, invece di avere perché chiedeva il permesso per rientrare in Italia, portare con sé la moglie e i figli, che erano nati negli Stati Uniti. E invece di presentarsi con le fototessere della famiglia, si è presentato con una fotografia che c'erano tutti e quattro. Perciò è una cosa che unica, più unica che rara, e allora mi è stato impresso. Per questo caso, che non mi era mai successo durante la mia carriera diplomatica, di questa cosa, ecco. Perciò sono sicuro che quel giorno, e lui era a centinaia di chilometri, perciò non poteva essere lì a fare questa rapina, ecco.
Decisamente no. Sulla reazione psicologica, appunto, dicevamo Nicola Sacco finì in ospedale psichiatrico e invece Bartolomeo Vanzetti riuscì a mantenere, diciamo, mi passi il termine, i nervi saldi, ma è un po' una riduzione. Ecco, diciamo che quindi il suo attivismo l'ha salvato sul piano personale, sul piano psicologico.
Certamente è il legame con la famiglia.
Donc là, on reparle, enfin Giovanni reparle de cette force qu'avait Bartolomea, force du combat, force dans la lecture, le fait qu'il soit autodidacte. On reparle aussi brièvement de l'anglais, de son apprentissage en prison. Et le fait aussi que cette force, il l'a trouvée dans les rapports perpétuels avec sa famille, les rapports avec
les avocats. Parce qu'il écrivait beaucoup.
Il écrivait, on revient souvent sur le fait qu'il écrivait. Giovanni, il revient souvent. Et puis, donc, comme le disait la chanson pour le moment du procès, mais ça qu'on pensait que Vanzetti était plus apte, enfin plus préparé dans les discussions, en fait, hein, pour défendre le.
Oui, Sacco était plus tourmenté aussi par sa famille.
Plus tourmenté, et il ajoutait, voilà, Giovanni ajoutait que Sacco, en plus, avait une femme et deux enfants, ce qui était effectivement différent, ils n'étaient pas dans les mêmes conditions. Et Sacco avait été aussi hospitalisé pour plus qu'une dépression. Il avait des problèmes. Il avait été en hôpital psychiatrique. Et fuori di testa, comme on dit. Et il faut rappeler que, dit-il, que, enfin Giovanni, que le jour de l'attaque dont on l'accusait, du crime dont on l'accusait.
Oui, ça, c'est un fait.
Voilà, on en a parlé un peu dans la première émission. Il se trouvait au consulat d'Italie, qui était distant, hein, loin du lieu du crime. Enfin le consul d'Italie voulait témoigner, on refusa son témoignage parce qu'on y voyait une complicité entre Italiens, alors qu'il était vraiment venu au consulat et qu'il était vraiment présent au consulat à ce moment-là. Et le consul était très affirmatif pour un détail un petit peu humoristique. Il dit que, au lieu de venir pour demander son rapatriement en Italie avec les photos d'identité et les papiers de chaque membre, il est venu avec une photo de famille, en fait, où toute la famille sur la même photo, ce qui se faisait jamais et ce qui l'a marqué. Donc il ne pouvait pas ne pas se souvenir du passage de Sacco. La question finale de ce bout d'interview de Marco était: est-ce que l'activisme de Bartolomeo l'a sauvé d'ennuis psychologiques et psychiatriques? Et oui, certes, dit-il, et aussi
et le
ses liens
avec
la famille. On insiste beaucoup sur les liens avec la famille, notamment avec la sœur aînée.
Donc ils ont été exécutés le 23 août 1927. Alors j'ai lu que l'enterrement a été suivi par 50 000 personnes qui auraient mis 4 heures pour faire les 1500 mètres qui séparaient le début du parcours de l'incinération.
En fait, c'est beaucoup plus.
Monsieur Vanzetti nous parle de chiffres bien supérieurs, d'un cortège de 7 km. Bon, peu importe les chiffres, mais il est sûr qu'il y avait plusieurs kilomètres dans le cortège.
Oui, parce que dans le film,
on voit ce passage.
C'est impressionnant.
Et alors après, l'enterrement, ça a été comme une traînée de poudre dans le monde. Alors Monsieur Giovanni Vanzetti va évoquer ces événements dans un morceau qui est un peu long, mais je crois qu'il faut entendre.
Come arriviamo ritorniamo al processo, alla post-condanna, comunque tutti questi 6 anni. 6 anni che sono finiti, fortunatamente, anche se purtroppo inutilmente, sotto i riflettori dell'opinione pubblica internazionale. Ci fu una grande mobilitazione, fu davvero importante e immagino anche per l'epoca piuttosto originale. Ecco, come si organizzò la solidarietà mondiale? Diciamo, arrivò dal mondo degli anarchici, dei comunisti, dei sindacati o non soltanto?
Ma sicuramente tutto è iniziato con la formazione di questo, come possiamo chiamarlo, come lì negli Stati Uniti a Boston, si è comitato, non mi veniva la parola, comitato Sacco e Vanzetti, pro Sacco e Vanzetti. E lì c'erano parecchi che erano di fede anarchica o comunque erano anarchici o comunque erano di sinistra ed erano italiani che hanno iniziato a cominciare a discutere, parlarne, fare delle dimostrazioni in piazza e poi portando delle documentazioni, specialmente la famiglia Brini, con cui quando c'è stato questo delitto il figlio era con Bartolomeo al 23 di dicembre a consegnare il pesce alle famiglie italiane che gliel'avevano ordinato, e questa cosa ha preso piede poco per volta, anche perché erano anche conosciuti, e sicuramente è partito un po' dal popolo, dalla base, ma però organizzato dai movimenti anarchici, perché altrimenti non ce n'erano altre possibilità di formare, perché poi hanno raccolto, fatto delle sottoscrizioni, raccolto soldi, denaro per pagare gli avvocati, e di conseguenza c'era bisogno di un'organizzazione non indifferente, solo che il momento è subito iniziata in un modo un po' forse meglio organizzata che le altre, delle altre, diciamo, manifestazioni per altri problemi, ed ha subito avuto una risonanza internazionale, perché poi si è allargata in tutta Europa e anche negli Stati Uniti.
Ecco, nasce infatti in un ambito affine politicamente alle due persone sotto processo, però si estende e si espande. L'atteggiamento della middle class, della classe borghese statunitense, ma anche internazionale, quale fu nei confronti di questa mobilitazione?
Loro non le potevano sopportare, perché comunque erano gente che praticamente il succo della discordia era questo, che volevano allora cambiare un po' il rapporto tra la classe politica e industriale e il popolo, cioè volevano migliorare la loro situazione, cosa che loro non volevano assolutamente.
E in più erano stranieri, che non aiutano.
Italiani erano, diciamo, carne da macello.
C'è, oltre alla vicenda politica, storica, giudiziaria, la vicenda di Sacco e Vanzetti, nomi quasi inscindibili e nomi che tutti hanno sentito, sono stati anche ripresi molto dalla cultura, pop, la cultura cinematografica. Ecco, qui entriamo un po' infatti su un aspetto un po' più emozionale. L'affare Sacco e Vanzetti viene reso noto per esempio dalla canzone di John Baez, che ha permesso di scoprirli, per esempio Sergio racconta, li ha scoperti all'inizio degli anni 70 con questa canzone, nel mezzo degli anni 70 poi una lettura illuminante sul processo e poi si è presa a conoscenza del rimbombo mondiale, dell'eco mondiale di questa storia. Tutti poi conoscono l'impegno civico di John Baez e c'è forse questa impressione, cioè che Ennio Morricone, che ha composto la musica delle due canzoni, avesse lo stesso impegno civico.
Allora, che Morricone avesse questa finale non glielo saprei, certo. Dire, questo non saprei dire. Però una cosa è certa. Dobbiamo ritornare innanzitutto qualche anno indietro. All'inizio degli anni 61-62, Vincenzina, la sorella più giovane, perché nel frattempo nel 1950 Luigina, quella che era stata negli Stati Uniti, che era la sorella più vecchia, era mancata, e riparte dice no, dobbiamo fare qualcosa per riabilitare questa cosa. E con due colleghi che lavoravano assieme in comune a Villa Falletto hanno rifondato il Comitato Sacco e Vanzetti e hanno iniziato a fare così un po' di, chiamiamola, propaganda, nel senso che chi voleva e poteva avvicinarsi, facevano leggere quelle che erano le lettere, quello che erano la documentazione che loro avevano. Tant'è vero che quando nel 71, quando Montaldo ha fatto il film, Montaldo non ha parlato con la nostra famiglia, in modo particolare con Vincenzina, perché lui lo spunto l'ha avuto negli Stati Uniti e da noi non... Mentre invece nel 61 in Italia, da una compagnia teatrale...
Voilà, alors on parle là de la mobilisation pendant toute la période où ils étaient incarcérés, en fait. Et alors, comment s'organisait tout a commencé avec les comités pro Sacco e Vanzetti, qui étaient la plupart des gens de gauche et la plupart des gens au départ des Italiens qui avaient émigré aux États-Unis. Ils organisaient des manifestations sur les places et Giovanni dit qu'on doit aussi rendre hommage à la famille Brini dont le fils était avec Bartolomeo au moment de la livraison du poisson à d'autres immigrés italiens d'ailleurs et qu'il voulait témoigner lui aussi et qu'il a participé, cette famille a participé à tout ce travail de création de comité et ils ont commencé à faire des souscriptions, ils ont recueilli de l'argent parce que évidemment qui dit procès dit avocat. À tel point que l'organisation a été assez huilée et qu'elle a eu des résonances dans toute l'Europe. Ce que demandait aussi Marco, c'est comment s'est comporté et quelle attitude a eu la classe moyenne, la bourgeoisie américaine vis-à-vis de ce procès, vis-à-vis des accusations portées à l'encontre de Sacco e Vanzetti. Et Giovanni souligne que cette bourgeoisie n'était pas du tout favorable à Sacco e Vanzetti parce que dans leur souhait d'améliorer les conditions des travailleurs américains, qu'ils soient américains ou d'origine étrangère, et ils y voyaient une contestation effectivement du système et du patronat américain. Et le fait qu'ils soient italiens ajoutait à leur non-adhésion, à leur innocence, si j'ose dire, et puisque être italien, c'était
déjà douteux.
C'était douteux et c'était de la chair à abattre, comme dans un abattoir, en fait. On parle après du volet culturel qui s'est emparé de l'affaire. Et on parle bien sûr de la chanson de John Baez, on parle du film et on parle de... Le Marco, l'intervieweur, demande notamment si Morricone n'a pas fait preuve là d'un engagement citoyen, en fait. Giovanni dit que... il a fait ça. Alors c'est vrai qu'au niveau culturel, il y a beaucoup de choses. Il y a eu même des bouquins, on en a parlé. Il y a eu le bouquin de Mills en France. Et ce qu'il dit, par contre, ce dont il est sûr, c'est que dans les années 60, dit-il, Vincenzina, la sœur aînée étant décédée, Vincenzina, la plus jeune, avait souhaité reprendre l'action et recréer des comités de pro Sacco e Vanzetti en Italie, là. Et avec le soutien de deux collègues de la mairie, de Villa Falletto, elle a reproposé des documents, des lectures qui ont commencé à, disons, apporter leurs fruits. Sur le fait que Montaldo ait fait un film il trouve ça très bien, mais il dit par contre qu'il n'a pas eu de lien direct avec la famille. Il a plus pris ses infos directement aux USA. En revanche, l'action de Vicencine, toutes ses lectures, cette renaissance de comité, a fait qu'une compagnie théâtrale italienne a tourné pendant 3 ans avec une représentation autour de cette affaire Vanzetti. La famille était allée à la première à Rome, mais ça a été joué aussi dans d'autres villes d'Italie, évidemment à Turin. Par contre, cette compagnie théâtrale, elle a complètement collaboré avec la famille et elle s'était basée notamment sur les documents concernant le procès, et elle a publié, elle a cité des lettres dans leur intégralité de Bartolomeo. Et il y avait aussi après une édition de Botta en Italie qui reprenait ces lettres. Et il insiste quand même sur l'importance de cette pièce qui a voulu, et notamment le fait qu'elle reprenne les dialogues du procès, parce qu'elle pense qu'elle a eu une grosse importance dans la réhabilitation
qui a eu lieu en 77.
Voilà, donc ce qu'on peut résumer des propos résumés là, encore une fois, de Giovanni.
Donc notre deuxième chanson est liée au procès.
La deuxième chanson est liée effectivement au procès. Alors on parle de la nuit du 22 août, parce qu'effectivement la saisie électrique c'était dans la nuit du
22-23, oui, c'était après minuit, quoi.
Voilà, alors le 22 août à Boston en Amérique, Sacco et Vanzetti, ils vont sur la chaise électrique et d'un coup par l'électricité on a voulu les envoyer dans l'autre monde. Et alors on refait on refait dans cette chanson le parcours des différents intervenants dans la cellule. Alors à 11h30, les juges et la grande cour sont venus ensemble dans la cellule de la mort en disant Sacco et Vanzetti, vous devez, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Et puis ensuite est entré un confesseur, mais Sacco e Vanzetti ont dit que nous mourirons sans le secours de la religion, sans religion. Tout le monde entier proclama leur innocence, ou réclama leur innocence, mais le président Fuller n'a pas eu de clémence. Et en disant « Nous les tuons à raison, adieu, femme, enfant, pour sa sœur, pour évidemment, et famille, pour Vanzetti, le cercueil est déjà prêt, adieu nos amis, vive l'Italie à Ballero. » Donc c'était une chanson traditionnelle, encore une fois tiré des chants d'émigration d'un album Quando Immigranti de Gualtiero Bertelli par la Compagnia delle Acque.
E con un colpo di elettricità all'altro mondo li volle mandar. Sacco e Vanzetti
tacque vanzetti con grande espressione. Noi moriremo senza religione. E tutto il mondo intero reclama la loro innocenza, ma il presidente Fuller non ebbe più clemenza. Siano essi di qualunque nazione, noi li uccidiamo con grande ragione. Siano essi di qualunque nazione, noi li uccidiamo con grande ragione.
Alors, je voudrais maintenant lire quelques lignes qu'a prononcées Vanzetti à son procès. « Jamais dans toute notre vie, nous n'aurions pu espérer faire pour la tolérance, pour la justice, pour la compréhension mutuelle des hommes, ce que nous faisons aujourd'hui par hasard. Nos paroles, nos vies, nos souffrances ne sont rien, mais qu'on nous prenne nos vies, vie d'un bon ouvrier, d'un pauvre vendeur de poissons, c'est cela qui est tout, ce dernier moment est le nôtre, cette agonie est notre triomphe. » Donc c'est cette chanson, effectivement, qu'on vient d'entendre, rappelle le passage dans le couloir de la mort. Et d'ailleurs, à ce sujet, les séquences du film sont vraiment poignantes. Alors bien sûr, le film de Montaldo a eu un grand retentissement. Pour faire connaître aux jeunes, mais aux jeunes de l'époque, l'affaire Sacco et Vanzetti. Et rappelons un peu, donc le film est de 71, rappelons un peu le contexte en France. C'était 3 ans après mai 68. En février 72, Pierre Auvernet, un militant d'extrême gauche, était tué par un vigile chez Renault. Et Jean-Paul Sartre vendait la cause du peuple à la criée. Donc il y avait un contexte assez favorable, quoi. Contexte favorable à tel point que John Baez, invité de l'émission de télévision Le Grand Échiquier, qui était une émission où il y avait un grand orchestre, des chanteurs, des écrivains qui venaient, a chanté la ballade de Sacco et Vanzetti en public dans cette émission. C'est une émission fleuve qui durait 3 heures sur Antenne 2. Alors on va revenir à monsieur Giovanni Vanzetti. Qui évoque un souvenir qui l'a beaucoup ému.
È stata un'emozione molto, molto forte. Però per me è stata un'emozione più forte un fatto che elude queste cose, ma se vuoi se ne può parlare, è successo 1 anno e mezzo fa a Villa Falletto, nella nostra ex casa. Quella è stata veramente un battone.
Che cosa è successo?
Niente, Botta, dottor Botta, ha ricevuto dagli Stati Uniti il film, l'originale del film del funerale, e rivisto, cioè rivisto nel senso aggiustato, messo in condizioni, perché non era più in condizione di essere proiettato, e l'hanno avuto e l'abbiamo proiettato a Villa Falletto nella nostra ex casa, nel nostro cortile. E per la prima volta gli abitanti di Villa Falletto...
Oui, alors on parlait de l'émotion qu'a toujours Giovanni pour évoquer Bartolomeo, mais il dit une émotion très forte, c'est celle qu'il a connue, bon, dit-il un an et demi avant d'être interviewé là par Marco, dans leur ex-maison de Villa Falletto. Alors le docteur Botta, docteur titre honorifique, qui avait reçu des USA l'original du film des funérailles. Ce film a été reconditionné, remasterisé, on dirait maintenant, et ils l'ont projeté donc sur le mur de leur ex-maison de Villa Falletto.
Alors, faut dire que Villa Falletto, c'est peut-être 400 habitants.
Oui, c'est un tout petit village, ou 500 peut-être.
500. Ouais.
Dans la cour, et pour la première fois, dit-il, les habitants justement de Villa Falletto se sont déplacés avec intérêt. Alors, ce n'est pas que ils croyaient en la culpabilité de Vanzetti, parce qu'ils l'ont toujours considéré comme un brave garçon, mais ils n'ont jamais fait preuve d'un... Oui. Voilà, ils n'ont pas donné d'avis plus loin, plus affirmé que ça. Mais là, par contre, enfin, pas publiquement en tous les cas, alors que là, il dit que 500 personnes, le chiffre est peut-être, disons que tout le village, voilà, sont venus, que ce soit les enfants et les anciens, voir la projection. Et pour lui, ça a été quelque chose de très émouvant, parce que c'était une sorte d'aveu de tout le monde, en fait, hein, sur la réhabilitation nécessaire de Sacco e Vanzetti. Et puis, il dit que sur ce qu'il a aussi beaucoup ému ce soir-là, c'est que la projection, au-dessus de la projection du mur, il y avait un balcon. Et sur ce balcon, sa sœur aînée, il la revoyait prendre se faire bronzer, en fait, prendre le soleil. Alors que, bon, c'est un détail qui paraît banal, mais cette sœur aînée, elle a quand même été dans la famille celle qui était très liée à Bartolomeo. Donc tout ça a été un moment d'émotion important. Et dit-il, les deux seuls qui n'étaient pas du village et qui étaient présents, c'était le maréchal des carabiniers et le prêtre.
Donc en 1977, le 23 août, soit 50 ans jour pour jour après leur exécution, Sacco e Vanzetti ont été réhabilités.
Ritorniamo alla storia, diciamo, quella del processo, della grande opinione internazionale, e torniamo al 1977, 50 anni dall'esecuzione della condanna a morte, quando finalmente Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti sono stati riabilitati. Lei che cosa ha pensato, cosa ha provato quando ha saputo di questa riabilitazione?
Allora... questa riabilitazione è stato il vero motivo per cui, in modo particolare Vincenzina, ma tutta la famiglia si è sempre battuta per averla, perché doveva essere un atto ufficiale degli Stati Uniti, cioè del Massachusetts, perché era lo stato del Massachusetts, e che fino a 2 o 3 anni prima non volevano neanche sentirne parlare. E invece, grazie a Dukakis, questo governatore, che...
Oui, là, on revient sur la réhabilitation de 1977, 50 ans après l'exécution. Alors évidemment, tout ça a été cueilli avec joie dans la famille, notamment par Vincenzina, dont on rappelle une fois de plus, celle dont il a rappelé une fois de plus l'action. C'était aussi presque une surprise, parce que 3 ans avant, personne ne voulait en entendre parler de la réhabilitation. Et donc, il rend hommage à Dukakis, le gouverneur donc des Massachusetts. Et puis, alors, il y a eu, suite à cette réhabilitation, il y a eu une manifestation importante donc dans son village natal. Voilà.
Alors, une troisième chanson... sur les anarchistes.
Ben on avait dans notre première émission passé Gli Anarchici de Léo Ferré, par Léo Ferré. On va l'entendre cette fois par un chanteur calabrais, Pepe Voltarelli, qui qui fait des choses intéressantes, Pepe Voltarelli. Donc c'est sur une traduction de Enrico Medail et qui est la chante accompagnée aussi au chant par Enriquez.
Non so l'1%, ma credetemi esistono. In gran parte spagnoli, chi lo sa mai perché? Penseresti che in Spagna proprio non li capiscano. Sono gli anarchici. Ha raccolto già tutto di insulti e battute, e più hanno gridato, più hanno ancora fiato. Hanno chiuso nel petto un sogno disperato e le anime corrose da idee favolose. Vavo, vavo, vai, dai, non ti dun di dun dai. Dado, dado, dai, dai. Non sono l'1%, ma credetemi esistono figli di troppo poco o di origine oscura. Non li si vede mai che quando fan paura sono gli anarchici.
Mille volte son morti come indifferente, con l'amore nel pugno, per troppo e per niente. Hanno gettato testardi la vita alla malora, ma hanno tanto colpito che colpiranno ancora. Non so l'1%, ma credetemi esistono. E se dai calci in culo c'è da incominciare.
Chi è che scende per strada non lo dimenticare, sono gli anarchici.
Hanno bandiere nere sulla loro speranza e la malinconia per compagna di danza. Coltelli per tagliare il pane dell'amicizia e del sangue pulito per lavar la sporcizia.
Avavavai, dai, dun di dun di dun dai. Da 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 dai, dai, dum di dum di dum dai.
Non so l'1%, ma credetemi esistono, stretti l'uno con l'altro. E se in loro non credi,
li puoi sbattere in terra, ma sono sempre in piedi. Sono gli anarchici.
Sono gli anarchici.
Sono gli anarchici.
C'est bien sûr Couleur FM 97.1, gli anarchici là par Pepe Voltarelli et Enriquez.
Alors pour finir, j'ai voulu poser une question plus large, comme on m'a appris à l'école, mais à la réécoute, cette question m'est parue un peu creuse, mais M. Vanzetti a su apporter une réponse, elle, beaucoup plus dense.
La storia, come dicevamo, è una storia individuale, la storia di una persona che incrocia però la storia più grande, più generale. È possibile generalizzare questa vicenda a proposito dell'idea di giustizia o è invece una questione legata molto a quella vicenda biografica e a quel periodo storico?
Sicuramente l'epoca è stata fondamentale perché era l'epoca della trasformazione che poi si è concluso con la grande crisi del 33 negli Stati Uniti, dove poi lì è stato rimesso tutto in ridiscussione, però quello è stato un momento di trapasso e decisione a mio avviso fondamentale. Però non so... sicuramente questa dichiarazione di questo governatore nel 77 è stata anche una liberazione per loro, perché poi quando sono stati commessi, io li chiamo assassini perché era gente che erano innocente, anche certo, se di fede politica contraria, però non si può ammazzare una persona perché ha delle idee contrarie.
Ecco, quella si chiama dittatura.
Ecco appunto. Però queste cose ero sempre riusciti a soffocarle e mai lasciarle divulgare in un modo sfrenato come è stato questo. E invece questo caso è stato proprio alla grande risonanza che c'è stato, perché a Parigi milioni di persone in cortei, non parliamo a Londra, negli Stati Uniti ce n'ero. Poi agli stessi funerali, nonostante che piovesse, nonostante che era stato vietato, c'erano più di 1 milione di persone, anche che non potevano partecipare. E difatti anche lì l'ultimo pezzo, poi la polizia a cavallo ha fatto la carica
tradizionale
per disperdere questa gente, che poi non erano gente che facevano niente di male, stavano andando a un funerale. Poteva essere giusto o sbagliato, bello, però non era un reato, ecco, andare a un funerale. Penso che comunque questa è storia, è agli atti di tutte le cose. Anche nel film che ne ho accennato prima, penso che adesso molto presto verrà divulgato e in modo... E si vede proprio questo enorme corteo, 7 chilometri di corteo. Cioè,
impressionante.
E con tutte la polizia che filmava tutti quelli che passavano. E loro sono riusciti a fare un film e nasconderlo e non farlo trovare.
E anche questa sarebbe una storia nella storia che un giorno sarà bello raccontare.
Sì, ma questa penso che prossimamente dovrebbe essere divulgato abbastanza, ecco.
E l'aspettiamo con molta curiosità. Giovanni Vanzetti, grazie davvero per questa storia individuale, collettiva e di memoria, che speriamo davvero rimanga tale.
Donc là oui, suite à la question, on parle...
Oui, je voulais élargir, mais c'est...
Sur la justice, sur les... Est-ce que ça a servi, en fait, au niveau mondial, en général? Autrement dit, est-ce qu'il y aura d'autres erreurs ou pas? Enfin, je pense que c'était le sens de la question que tu as voulu faire poser. Alors, il dit que l'époque a quand même été... c'était une époque qui était fondamentale parce que c'était une période de transformation... Et c'est une période qui a abouti aussi à la crise de 33. Donc le fait que ces événements se soient déroulés à cette époque-là a peut-être effectivement eu un écho supérieur. Enfin, c'est un avis, hein, c'est pas du tout une certitude. Mais il dit que par la déclaration de 1977 et la réhabilitation, en fait, cette réhabilitation permettait en quelque sorte aux USA de se libérer aussi, de se libérer peut-être d'un poids, de quelque chose.
Oui, c'est de reconnaître l'erreur.
De reconnaître l'erreur, c'est aussi se libérer de tout ce qu'on pouvait les accuser de ne l'avoir jamais fait, peut-être. Hein, c'est ce qu'il veut peut-être sous-entendre, je ne sais pas. Et, il dit que le cas Sacco et Vanzetti, si on se souvient bien, à un moment de l'émission, il disait que c'était pas le cas unique, mais que celui-là avait pris une ampleur énormément, qui a dépassé ce que pouvaient en penser les USA. Il le rappelle et il dit que l'écho qu'a pu avoir cet événement a sans doute eu une influence par la suite. Et il rappelle aussi qu'aux funérailles, malgré la pluie, malgré l'interdiction, il était interdit d'aller aux funérailles de Sacco et Vanzetti. Il y avait, bon, on reparle des chiffres, là, lui dit 1 million, on ne sait pas. Mais en fait, il y avait un cortège que lui estime à 7 kilomètres. Et il dit que la police l'a avait chargé, la police à cheval avait chargé les gens pour les disperser, alors qu'ils allaient seulement à des funérailles, que ce n'est pas un délit. Par contre, effectivement,
moi, j'ai lu que la voiture où il y avait les deux corps, vers la fin, a accéléré. Ça fait que les gens ont été obligés de courir, et là, c'était le bazar.
Mais il pense d'ailleurs que... Parce que dans le film de Montal, on revoit un petit passage de ses funérailles, et il dit qu'en fait, on aura probablement, dans quelques temps, l'intégralité du film des funérailles, parce que malgré la police, malgré les interdictions... elles ont pu être filmées par quelques-uns qui tenaient à ce témoignage. Voilà, et donc tout ça est un fait d'histoire qu'on ne peut pas ignorer. Et le soir de la projection, non pas quand il est sorti, mais cette année, le Cinéma Orpice l'a reprogrammé ce film. Et à la sortie, il y a eu beaucoup de discussions quand même.
Oui, c'est pas étonnant.
Beaucoup de discussions, 40 ans après le film, mais ça, bien longtemps après l'assassinat de Sacco et
Vanzetti. Oui, on peut dire ça comme ça. Hein.
Et, ça a remué quand même, ça a remué beaucoup de gens, et il y a des parallèles qui étaient faits. Je pense qu'on doit reparler de cette... plus qu'erreur judiciaire, parce que une erreur, c'est une erreur. Une volonté de condamner, c'est plus une erreur.
Voilà, se terminent ces deux émissions sur Bartolomeo Vanzetti, exécuté ou assassiné, comme on veut, avec son ami Sacco le 23 août 1927, réhabilité le 23 août 1977, et dont on pourra peut-être réécouter cette émission le 23 août 2017 sur Couleur FM 97.1. Et je vais remercier aussi peut-être un peu plus rapidement Monsieur Giovanni Vanzetti, la radio RBE, Maria Bertolino, Caroline Brouet de France Culture, Couleur FM pour sa grande souplesse pour l'enregistrement et puis la diffusion, et enfin aussi ma femme qui m'a demandé et rappelé de ne pas oublier de remercier. Au revoir à tous.
Au revoir. À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.